Décryptage. Clémentine Pavlotsky.
Bonsoir à tous, bienvenue dans ce décryptage consacré ce soir aux coulisses de la COP26. La conférence de l'ONU sur le changement climatique touche à sa fin. L'événement doit se refermer demain après 2 semaines de négociations à Glasgow en Écosse. Près de 39 500 participants de 196 pays étaient présents, dont pas moins de 120 dirigeants internationaux. Plusieurs engagements ont été pris pour tenter de freiner le réchauffement de notre planète dans la lignée de l'accord de Paris signé en 2015. Par exemple, la Chine et les États-Unis ont annoncé un accord surprise en promettant d'accentuer leurs efforts en faveur du climat. Autre exemple, une quarantaine de pays se sont engagés à abandonner le charbon d'ici à 2030 pour les plus développés et d'ici à 2040 pour les plus pauvres. Alors en coulisses, comment se sont déroulées les négociations? Le protocole sanitaire lié au Covid-19 a-t-il pesé sur l'événement? Quels sont les éventuels dysfonctionnements de cette COP26? Et plus globalement, quel bilan peut-on en tirer? On en parle pendant 20 minutes. Et nous sommes en ligne avec Anne-Cécile Bras, présentatrice de l'émission « C'est pas du vent » consacrée à l'environnement sur RFI. Bonsoir Anne-Cécile.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de Glasgow où vous couvrez justement cette COP26 pour RFI. Et nous avons également le plaisir d'accueillir en studio Sébastien Treilleur, directeur général de l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. Bonsoir et bienvenue à vous.
Bonsoir, merci.
Alors je le disais, près de 39 500 personnes ont participé à cette COP26. Anne-Cécile Bras, d'abord, qui sont les participants, mis à part bien sûr les chefs d'État internationaux?
Bah écoutez, les statistiques fournies par la présidence britannique nous disent qu'il y a eu, parce que les négociations sont loin d'être terminées, 21 000 délégués à Glasgow, donc c'est 21 000 personnes qui font partie des délégations des 196 pays, 14 000 observateurs, dont 11 000 représentants d'ONG et 3 800 journalistes.
Vous avez le sentiment, Cécile Bras, le protocole sanitaire mis en place en raison de la pandémie de Covid-19 a pesé sur les discussions, les négociations, sur l'organisation générale de cette COP?
Alors sur les négociations, c'est un peu au début de la présidence britannique avait mis en effet des règles très strictes pour accéder aux salles, etc. Bon, il y a eu des broncas, notamment des pays du Sud qui ont moins de personnes dans leur délégation, qui ont dit non mais si vous mettez une seule personne par salle, nous on pourra pas être partout et donc du coup ça sera pas assez. Donc il faut lever ces contraintes. Donc la présidence britannique a levé les contraintes au fur et à mesure pour que les négociations se déroulent correctement. Non, ce qui a pesé, je pense, l'impact du Covid est plus sur les participants, même si, comme vous le disiez, il y a 39 500 personnes présentes, ce qui est quand même beaucoup. Il y a des personnes qui ne sont pas là, notamment les représentants des peuples autochtones, beaucoup de personnes aussi des pays africains, parce que la présidence britannique a dit que très tardivement qu'il n'y aurait pas de quarantaine pour les participants. Or, déjà, cette COP à Glasgow coûte très cher. Les hôtels sont chers, les logements sont chers, les billets d'avion sont chers. Donc ça, c'était un petit peu dissuasif. Et quand en plus, vous rajoutez des pays auxquels on dit ben, vous serez en quarantaine, donc il faudra venir un mois en tout, c'est-à-dire 15 jours avant la COP pour faire votre quarantaine, plus 15 jours de COP, là, ça devenait carrément impossible pour beaucoup d'entre eux. Et donc, du coup, il y a plein de... Alors même si la présidence britannique, finalement, au dernier moment, a un peu levé ses quarantaines et simplifié les choses, c'était trop tard pour que les pays les plus pauvres trouvent suffisamment de financement pour faire venir un maximum de monde. Donc ça, je pense que on le voit hein, dans les... Enfin, moi, c'est ma 10e COP. On voit dans les couloirs qu'il y a beaucoup moins de représentants des peuples autochtones que d'habitude. Et ça, c'est bon. À ce niveau-là, c'est un peu dommage parce que leur présence est quand même importante.
Importante, ça fait partie effectivement des pays les plus vulnérables. Et justement, en réaction à cette impossibilité de participer à la COP26, il y a eu cette initiative assez originale du ministre des Affaires étrangères des îles Tuvalu dans le Pacifique, Simon Koff, a décidé d'adresser un message aux participants de la COP26. Un message assez original puisqu'on le voit donc en vidéo, en costume cravate, les pieds dans l'eau pour alerter sur le niveau la montée du niveau des océans qui pèse hein, sur ces îles polynésiennes. Il a installé son pupitre dans l'eau, un drapeau de l'ONU derrière lui. Je vous propose qu'on l'écoute.
À Tuvalu, nous vivons la réalité du changement climatique. Le niveau de la mer monte alors que vous me regardez aujourd'hui de la COP26. Nous ne pouvons pas nous contenter de discours alors que la mer monte autour de nous en permanence. L'adaptation climatique doit passer au premier plan. Nous devons prendre des mesures alternatives, audacieuses, aujourd'hui pour assurer notre avenir.
Sébastien Treyer, je me tourne vers vous. On a presque cette idée que finalement les pays qui aujourd'hui pèsent le plus dans cette COP26, ce sont les pays les plus riches, mais aussi les plus pollueurs. Est-ce que c'est pas un petit peu paradoxal ?
Alors c'est un peu paradoxal, mais c'est vrai que c'est d'eux qu'on attend les plus gros efforts. Donc il est important qu'ils soient présents et qu'ils puissent vraiment être obligés de s'engager parce qu'ils sont à ce moment-là dans la COP26 devant les autres nations, hein, devant l'ensemble des pays de la planète. Moi, je suis très frappé par le fait quand même que, à juste titre, les pays les plus vulnérables se font beaucoup entendre. Hein. Ils demandent un Glasgow Emergency Pact, un pacte d'urgence de sauvetage de Glasgow, qui serait le moment clé pour eux de cette négociation et qui n'est pas encore, on n'a pas encore abouti à ce résultat-là. Moi, je pense qu'il serait extrêmement important de l'avoir. Pacte qui demande à la fois l'accélération de l'action des autres pays, des pays pollueurs, et puis de la finance. Accélération voulant dire revenez l'année prochaine, puis l'année d'après, revenez tous les ans pour nous dire comment vous avez fait mieux que l'année d'avant. C'est ça que demandent les pays les plus vulnérables. Et puis qui demandent de la finance, notamment pour l'adaptation, objectif sur lequel les pays du Nord s'étaient engagés et n'ont pas atteint l'objectif des 100 milliards par an à partir de 2020 auquel ils s'étaient engagés. Donc on les entend beaucoup, les pays les plus vulnérables. Mais ce que disait Anne-Cécile Bras est très vrai. C'est-à-dire que il y a des passages obligés, des points obligés de la négociation qui sont déjà assez nombreux. La présidence britannique en a rajouté tout un certain nombre d'autres avec une bonne intention pour essayer de mettre l'accent sur les questions comme la nature, des questions comme l'intégrité des engagements de neutralité carbone. Mais tout ça, ça dissémine, ça disperse les délégations. Et quand on est un pays du Pacifique, on n'est pas assez nombreux dans la délégation. Et donc, on se retrouve, même si on entend leur voix dans les déclarations politiques, dans le détail des négociations, ils sont très désavantagés s'ils ne peuvent pas arriver avec une délégation suffisamment fournie.
Et alors justement, Anne-Cécile Bras, vous qui êtes en ce moment à la COP26, toutes ces négociations, comment est-ce qu'elles se passent ? Est-ce que vous avez pu y assister ?
Alors non, hein, les salles de négociation ne sont pas ouvertes aux journalistes, mais honnêtement, je trouve que c'est plutôt normal, parce que déjà, c'est extrêmement compliqué pour les pays de négocier entre eux. C'est un jargon diplomatique onusien. Il y a des tensions très importantes. Donc si, en plus, vous rajoutiez la presse dans ces salles de négociation, je pense que là, vraiment, il y aurait rien qui n'avancerait et ça serait vraiment contre-productif. Alors, donc, on n'a pas accès aux salles de négociation, mais nous, on a accès quand même à tous les négociateurs dès qu'ils sortent des salles. On a des conférences de presse régulièrement. On peut aller voir et interviewer les délégués des pays qui veulent bien nous rencontrer. Donc c'est vraiment facile de suivre tout ça et on a accès en toute transparence. Alors peut-être pas à tous les détails. Hier par exemple, j'ai appris que John Kerry, le secrétaire d'État américain, était allé sur le pavillon du Brésil pour se fâcher un peu avec le représentant du Brésil en lui disant bon, arrêtez de faire des déclarations qui sont pas suivies des faits, etc. Bon voilà, mais ça c'est de la petite histoire. C'est pas très grave si on voit pas ça, nous les médias. Ce qui compte, c'est que ça avance à 196 pays avec vraiment des décisions de portée, d'ampleur beaucoup plus importantes que ces petites anecdotes qui certes nous amusent mais ne sont pas très constructives.
Alors on entend beaucoup évidemment parler des organisations de défense de l'environnement et du climat, Anne-Cécile. Elles sont évidemment très mobilisées pendant cette COP pour faire entendre leur voix. Est-ce qu'elles peuvent participer aux négociations ou au moins peut-être y assister en tant qu'observateurs ?
Alors oui, en fait, surtout pour les pays les plus vulnérables, je dirais les pays les plus pauvres, parce que en fait les pays les plus pauvres viennent avec des délégations. Hein. Chaque pays choisit de construire sa délégation avec qui il le souhaite, en gros. Et du coup, il y a certains membres d'ONG qui, dans les pays les plus pauvres, sont souvent assez aguerris sur les enjeux de négociation climat, ce qui est pas évident. Hein. C'est extrêmement compliqué. Ça se passe majoritairement majoritairement, même complètement en anglais, donc la barrière de la langue est aussi un problème. Et donc quand il y a une ONG dans un pays, un représentant d'une ONG dans un pays qui est plutôt aguerri sur le sujet, qui parle bien anglais, il participe aux négociations au nom du pays. Par exemple, ce matin, j'ai discuté avec une jeune femme qui s'appelle Inza Grace, qui est très très mobilisée, qui est rwandaise. Elle a une ONG au Rwanda, elle mobilise la jeunesse, elle fait de la sensibilisation dans les écoles, mais elle négocie aussi ici à la COP26 au nom du Rwanda.
Sébastien Treyer, il y a eu cette présence aussi remarquée de plus de 500 représentants des lobbies des énergies fossiles lors de cette COP26. On peut évidemment s'en étonner. Comment est-ce que vous expliquez cette présence ? Est-ce que c'est habituel lors des COP ?
En fait, il faut voir que ce qu'on appelle la société civile, c'est à la fois les ONG de défense de l'environnement, les représentants des peuples vulnérables et puis les représentants de l'industrie. Les acteurs économiques font partie de la société civile et ça me paraît, à vrai dire, quelque chose d'assez logique. C'est-à-dire que il est aussi important que dans les couloirs de ces négociations, les ONG d'environnement aient des moments pour discuter avec les délégués de l'industrie. Donc c'est pas a priori quelque chose que je trouve moralement négatif. Ce qui est effectivement important, c'est toujours de voir quel est l'équilibre entre les différents types de délégations. Il ne faut pas se leurrer. De toute façon, même si les délégués des acteurs économiques ne sont pas présents à Glasgow, ils ont aussi des accès directs à leurs ministres dans leur capitale. Donc ne prenons pas ça comme un indicateur négatif. Ce qui me semble extrêmement important, c'est de voir dans quelle mesure ces acteurs-là, quand ils sont aussi dans les à côté de la COP, en train de prendre des engagements, comment est-ce que ces engagements qui se passent en parallèle de la négociation entre les gouvernements font l'objet de suffisamment de redevabilité, de mécanismes où ils rendent des comptes, parce que ça fait partie aussi de ce qui se passe à la COP, des engagements qui sont pris en parallèle de ceux des États, et on compte là-dessus aussi, le nombre d'entreprises qui se sont engagées, par exemple, à lutter contre la déforestation, c'est très intéressant. Maintenant, nous, on va regarder en détail comment est-ce que, au-delà de la déclaration des pays qui a été prise la semaine dernière, mardi dernier, sur la lutte contre la déforestation, comment est-ce que ces entreprises, on va pouvoir regarder les indicateurs détaillés de leur action concrète au fil du temps.
Et alors justement, Sébastien Treyer, sur cette question de la déforestation, on a effectivement une centaine de chefs d'État et de gouvernement qui sont engagés, vous le disiez, à mettre fin à cette déforestation. Alors parmi les signataires, on retrouve par exemple le Brésil, l'Indonésie, la République démocratique du Congo. On a parlé dans la presse d'un accord sans précédent. Mais quel dispositif de suivi existe, est en place ? Enfin, est-ce qu'il y a des dispositifs de suivi aujourd'hui qui permettent de s'assurer que les engagements pris ne sont pas simplement des effets d'annonce au moment où les projecteurs sont braqués sur les responsables politiques et toutes ces mesures seront bien appliquées ?
Alors cette COP, elle est vraiment illustrative du fait qu'il y a eu énormément d'annonces de ce type. Il y a eu beaucoup d'engagements et c'était un peu aussi le défi que s'était mis la présidence britannique. Elle a plutôt réussi, il y a eu beaucoup d'engagements pris. Maintenant, à nous, acteurs de la société civile, l'IDRIU travaille, on est un think tank pour analyser ça, de quand même décrypter ceux qui sont vraiment sérieux et ceux qui le sont moins, parce qu'il y a eu beaucoup une grande hétérogénéité dans ces engagements. Sur la déforestation, il est évidemment très difficile de croire que le gouvernement de Jair Bolsonaro va prendre au sérieux l'engagement qu'il a signé. Donc moi, je suis très sceptique là-dessus. Mais ce qui est vraiment sans précédent dans cette déclaration sur les forêts, il faut voir qu'il y en a déjà eu une en 2014. Donc cette déclaration, en soi, n'est pas sans précédent. Mais c'est la hauteur des montants financiers mobilisés. Et je voudrais signaler par exemple qu'on va regarder nous avec beaucoup de détails qui finance ces montants. On a parlé de 10,3 milliards d'euros d'ici 2025, 1 milliard d'euros de l'Union européenne pour le bassin du Congo. Là, il y a quelque chose de précis, de détaillé, avec une Commission européenne qui a l'habitude d'être relativement transparente. Nous, on va suivre de près comment cet argent est utilisé, est-ce qu'il est réellement déboursé, pour pouvoir vérifier quelle est la réalité de cet engagement sur les forêts.
Et lors des précédentes COP, les États ont eu à rendre des comptes ou c'est quelque chose qui se met en place petit à petit ?
Alors, il y a toute une mécanique de l'accord de Paris qui est précisément ce qu'on attendait avec cette COP 26 qui devait avoir lieu en 2020. C'était que tous les 5 ans, au moins, les États sont censés revenir, raconter ce qu'ils ont fait des engagements pris précédemment et puis montrer qu'ils sont capables de prendre des engagements plus importants. C'était vraiment un énorme enjeu. Et à ce titre-là, la COP sert moins pendant qu'elle existe que comme un moment qui rythme l'agenda politique. Et ce qui s'est passé avant est extrêmement important. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on a eu un moment un petit peu délicat. Avant la COP, moi, j'étais assez pessimiste. Mais les déclarations comme celle de l'Inde, qui arrive avec un engagement de neutralité carbone, certes à 2070, mais avec un plan en 5 points qui explique comment à 2030 tout ça va changer, ça, c'était exactement la dynamique que l'accord de Paris était censé créer. Et donc, oui, les États sont censés être redevables de leurs engagements. On est censé vérifier ça. Et il y aura en 2023 ce qui s'appelle le bilan mondial, le Global Stocktake en anglais, où on va regarder où on en est globalement et où les pays en sont individuellement pour pouvoir les tenir comptables de leurs échecs ou de leurs réussites.
Et derrière cette question du réchauffement climatique, Sébastien Treilleur, il y a une autre question importante, celle de la biodiversité. On a aujourd'hui, et c'est une conséquence du réchauffement du climat, mais toute une partie de la faune et de la flore qui disparaît. Quelle place est accordée à ces sujets lors de la COP26?
Alors ça me permet justement de revenir un peu sur la manière dont ça s'organise. Il y a eu d'un côté des objets officiels de la négociation, comme la question du financement de l'adaptation dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais il y a aussi des éléments qui sont rajoutés en plus par la présidence britannique qui avait une priorité sur ce qu'ils appelaient la nature, la biodiversité. Et donc ça fait l'objet de beaucoup de discussions, notamment tout un effort de la société civile environnementale pour mettre dans la déclaration de cette conférence 26 le besoin de tenir ensemble l'ambition de protection du climat et l'ambition de protection de la biodiversité. Et il est extrêmement important que ça soit pas juste pour dire la biodiversité vous permet de trouver des solutions en matière de climat, ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, quand on protège une mangrove ou qu'on la restaure et que ça permet en plus de stocker du carbone, mais c'est aussi de dire très fort que certaines des manières qu'on aurait d'atteindre la neutralité carbone, donc d'obtenir l'objectif climat, peuvent se faire au détriment de la biodiversité. Par exemple, si on fait des grandes plantations monospécifiques pour essayer de capter le carbone. Et donc ça, c'est un des enjeux de cette COP. Cet enjeu de la biodiversité était très présent. Et on avait vu dès avant la COP hein, beaucoup de pays qui déclaraient ensemble « je veux atteindre ensemble l'ambition climat et biodiversité ». L'Union européenne, la Chine l'ont dit. Et il y a une négociation onusienne en plus hein, qui se passe sur la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique. Mais la connexion entre les deux est faite à partir de cette COP26.
Anne-Cécile Bras, vous qui êtes sur place, quel bilan global est-ce que vous tirez de cette COP26? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise ou choquée pendant cette conférence sur le changement climatique?
Bah écoutez, j'aimerais bien revenir sur ce dont parlait Sébastien Treilleur, c'est-à-dire toutes ces annonces sur le charbon, sur le méthane, sur la fin des subventions aux énergies fossiles, sur les forêts, etc. Enfin, c'est vrai que là, il y a eu pléthore à coup de 10 pays, 20 pays, 40 pays, 100 pays. Enfin, alors les médias adorent ça. D'ailleurs, enfin, c'est pas du tout une critique, mais vous avez ouvert votre émission en mentionnant cet accord sur le charbon.
Je suis tombée dans le piège, je l'admets.
Je suis désolée de vous le dire, mais un petit peu en réalité, parce que évidemment que les médias adorent ce genre de choses parce que c'est simple, c'est clair, puis les pays paradent en faisant leurs annonces, mais alors heureusement il y a des institutions en effet comme l'IDRI qui suivent ça de près, mais au niveau international, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a dit qu'ils allaient mettre en place au sein de la COP un organe de suivi de ces annonces, parce que c'est extrêmement facile, si vous voulez, de venir à la COP en disant monter sur un podium et dire ben voilà, mon pays s'engage à arrêter les subventions aux énergies fossiles, sauf qu'on voit bien sur toutes ces coalitions, il y en a des centaines qui ont été créées depuis l'accord de Paris, que parfois les pays disent « Ah, finalement, je me suis engagé trop tôt » ou « Finalement, je regrette, j'aurais pas dû signer » ou alors « Attendez, j'ai signé, j'avais promis ça, mais je vais changer, etc. » Et donc, bref, entre le moment médiatique et la réalité sur le terrain, il y a un gap énorme. Et du coup, ça cache non seulement ceux qui font vraiment des efforts, parce que eux, faudrait vraiment qu'on les voit dans les médias, et bah du coup, ils restent un petit peu derrière. Et surtout, c'est bien confortable pour les plus grands émetteurs que sont la Chine, les États-Unis, l'Inde, enfin, on les connaît, etc., qui du coup, bah, sont un peu cachés. Leur inaction est un petit peu cachée derrière ces grosses annonces-là. Et voilà, c'est extrêmement dangereux. Et je trouve que cette COP-là, elle est vraiment symptomatique de ça, quoi. C'est multiplication d'annonces pour cacher le vide de l'avancée des négociations qui est quand même réelle ici à Glasgow.
Sébastien Treilleur, pour refermer cette émission et pour conclure, on a entendu, on lit dans la presse un bilan en demi-teinte, on a la militante de la défenseuse de l'environnement Greta Thunberg qui a parlé avant même que la COP soit finie d'un échec. Pour vous, cette COP, est-ce qu'elle a été à la hauteur des attentes ?
Pour moi, elle est à la hauteur des attentes, mais comme le dit Anne-Cécile Bras, on ne voit pas où est le bon grain, où est l'ivraie. Et donc, il y a énormément de choses qui sont très importantes. Il y a eu un deal passé entre l'Union européenne, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Afrique du Sud sur le charbon et l'entreprise d'électricité sud-africaine. Ça, c'est un deal extrêmement important qu'on n'a pas assez mis en évidence. Et donc, il va falloir qu'on trie ce qui a marché et ce qui n'a pas marché.
Et ce qui n'a pas marché, on va bien sûr suivre ça. Merci beaucoup à tous les deux, Sébastien Treyer, directeur général de l'Institut du développement durable et des relations internationales. Merci également à Anne-Cécile Bras, présentatrice de l'émission C'est pas du vent sur RFI, en direct de la COP26 de Glasgow.